Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bouchourle, bouchourle, les chers milliers de paires d'oreilles qui surfent sur nos ondes du 102.9 Radio Judaïka, soyez les bienvenus. Vous êtes au son des quatre saisons de Vivaldi. Comme c'est charmant, je crois que c'est le printemps, si je ne me trompe pas. Ben oui, on est au printemps, Müller, enfin. J'ai fait une somptueuse place à Dame Nature, aux contemplatifs, à ceux qui savent regarder, observer, sniffer avec le nez le parfum de la nature. Qu'y a-t-il de plus merveilleux qu'une forêt de mélèze au printemps? Une prairie en fleurs, jonquilles, primes vertes, crocus, anémones. Il faut nunte pugle respecter, choyer cette nature, elle est vitale. Et justement, mon invité surprise ce matin est un amoureux de cette nature. Du côté du Jägertal, là-haut dans le Grand Nord, à Niederbronn-les-Bains, Niederbronn-la-Pot-Pet, on peut dire, il a publié plusieurs livres à images. J'ai relevé cette phrase, « Cette beauté de la nature est nécessaire pour vivre ». C'est joliment dit, hein, cher invité. Salut Michel Rauscher, comment tu gazouilles dans ton monde? Tu es un homme heureux, toi?
Complètement heureux.
Bah, je suis très heureux de partager ce moment avec toi ici, chez nous à la radio. Un grand merci d'être venu de si loin, du Jägertal. Alors, raconte-moi, c'était comment ce matin le Jägertal quand tu l'as quitté?
Quand j'ai quitté Jägertal ce matin, c'était entièrement dans le brouillard.
Waouh!
Et on monte un peu sur les sentiers et c'était plein soleil.
C'est une inversion en fait. On appelle ça une inversion.
Une inversion, c'est-à-dire toute la plaine est dans le brouillard, toutes les vallées sont dans le brouillard. Il n'y a que les sommets qui dépassent. On a l'impression d'être en mer, quoi, avec des îles un peu partout.
Avec un navire comme ça, navire. Ouais, c'est beau. Mais ça, c'est les Vosges du Nord. C'est la spécificité là-haut.
Oui, hein? C'est la grande qualité des Vosges du Nord.
Alors, j'ai relevé ta petite phrase tout à l'heure. Tu ne peux pas vivre sans la nature, toi, Michel.
Ouais, la nature est un peu devenue ma passion. Et j'allais dire sa splendeur, pour ceux qui sont attentifs, ils en ont pour toute la vie. Et participer à ce spectacle, ça dynamise l'être depuis le matin de bonheur, quoi.
Mais c'est bien de lire parce que tout le monde ne sait pas observer, ne sait pas la respirer, cette nature.
De plus en plus, les gens ne connaissent au niveau nature que leur chien, leur chat. Et quand on leur parle de disparition de tel oiseau, de tel batracien,
ça les concerne pas.
Ça les concerne pas, ils connaissent pas. Donc, on ne peut pas avoir de sentiments ni d'émotions pour des choses qu'on ne connaît pas.
Pourtant, toi, tu leur montres, on va en parler un peu plus tard avec des photos que tu fais, on en parlera un peu plus tard. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette nature, toi qui l'aimes? Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie?
Elle m'apporte surtout la paix et une certaine joie de vivre qui est relativement profonde, finalement. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Je me souviendrai toujours d'un Indien qui disait au Parlement américain, il disait déjà dans les années 1870, par là, il disait « L'homme qui s'écarte de la nature devient violent. »
Waouh, c'est beau ça. Et c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui.
Et souvent, les gens qui ne vont pas dans la nature, j'allais dire, sont sujets de leurs émotions, de leurs passions, et puis de leurs préjugés, de leurs idées, etc., qui sont des fois, j'allais dire, pas du tout en rapport avec la vie, la vraie vie, quoi.
Ouais, mais je crois que tu as raison de dire ça, mais les gens ne savent pas la regarder, cette nature. Ils ne savent pas la comprendre. Je pense que les gens n'enlacent pas un arbre pour prendre leur énergie ou parler à son écorce tu vois?
Oui, la nature, c'est vrai qu'il faut, pour la voir, il faut y être déjà sensibilisé. Pour être sensibilisé à la nature, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut apprendre à la connaître. Et ainsi de suite. Donc, c'est tout le temps la même chose, quoi. Ouais. Donc, on respecte que ce qu'on connaît.
De ce qu'on connaît, c'est vrai. Parle-moi un petit peu de cette odeur dans le Jägertal. C'est comment l'odeur de ta nature? Comment tu la ressens avec ton nez, avec les parfums?
Alors, en ce moment, c'est surtout l'odeur de terre mouillée. Parce qu'il pleut tous les jours.
Et c'est vital, c'est utile pour la forêt.
Alors, pour la forêt, c'était même très, très vital parce que beaucoup d'arbres étaient en souffrance avec les dernières années et le réchauffement climatique qui se fait ressentir jusque là-bas. Et donc, ces fonds de vallée qui sont de nouveau bien humides, ben, dégagent cette odeur de terre fraîche, quoi.
Oui, mais un arbre est vital. Un arbre sait comment se comporter quand il manque d'eau, non ? Il sait à peu près comment faire. Parce qu'un arbre, c'est aussi quelqu'un qui envoie de l'air.
Les arbres, déjà, quand on regarde un peu de près, ils s'entraident les uns les autres. Ils communiquent les uns les autres.
Mais comment ?
Par les racines.
Ah ouais.
Les scientifiques ont montré que dans une cuillère de terre, d'humus de forêt, il y a plus de 16 millions de connexions.
Waouh.
Et ces connexions sont faites par les mycéliums des champignons. Et donc, les champignons communiquent avec les arbres, en tirent, grâce à la photosynthèse de l'arbre, les sucres. Et en compensation, les champignons leur apportent les micro-éléments, ces choses-là.
Mais c'est aussi un parasol. Ça sert aussi à protéger un arbre.
Ensuite, la forêt, effectivement, quand à Strasbourg, il y a 20 degrés, on peut dire qu'à Niederbronn, il y a 2 degrés de moins. Et si on va en forêt, il y a encore 2 degrés de moins. Et si on monte en haut, à 600 mètres d'altitude, il y a encore 2 degrés de moins. Alors finalement, j'allais dire, souvent pour chercher la fraîcheur, on va en forêt.
Il faut en forêt. C'est ce que tu fais, toi ?
Et c'est ce que je fais, moi. Hein, donc, et les arbres, pour combattre la chaleur, laissent s'évaporer. L'évaporation provoque un petit refroidissement, c'est vrai.
Ouais. C'est intéressant tout ce que tu me dis. Tu viens du Groumet-Elsos, toi, Michel, à la frontière de Mosellane, là-haut ?
Oui, mes parents habitent Mittersheim, à côté de Fenétrange. Et j'allais dire, c'est un saut de puce de l'Alsace-Bossu. Dindorf, c'est la forêt juste de l'autre côté. Harskirchen, ma grand-mère était de Harskirchen.
C'est le pays de la Mirabelle, là-haut ?
Pas du tout.
Pas encore.
Tout à fait. C'est plutôt le pays des pommes.
Ah, du Äpfel,
ouais.
Ah, ouais. C'est là-haut qu'on fait les jus de pommes, alors ?
Voilà, donc Réa, jus de pommes, sa Réunion était connue pour ça. Et puis chez nous, il n'y a pas de hopfle, c'est des hopla.
Ah, des hopfle ? Hopla ?
Hopla,
ah bon ?
ouais.
C'est
peg,
vous parlez un peu différemment, le dialecte différent.
Hein. Voilà.
Avec, on dit chez toi, là, la chaya d'or. Tu sais ce que c'est que la chaya d'or ?
La chaya
d'or ?
Non, t'es chia d'or.
Chia d'or, ouais. Moi, je croyais que vous disiez la chaya d'or.
T'es chia d'or.
Ah, la chia d'or, ouais. Et alors, dis-moi, tu as donc grandi là-haut, tu as fait tes petites études, la primaire, tout ça. Tu étais comment ? Tu étais un travailleur dans ta scolarité ou un rêveur comme moi ?
J'étais rêveur, j'étais surtout bon au sport, et puis...
Tu faisais quel sport ?
Tout ce qui était classe, c'était sans problème. Donc, c'est passé carrément, voilà.
La glace, tu veux dire la patinoire, tu veux dire, non ? Non, j'ai pas compris.
Au niveau de... On parlait de quoi ?
Je me demandais ce que tu faisais comme sport quand tu étais petit garçon. Ouais.
Quand j'étais sport, du foot, comme tous les garçons. Voilà, il n'y avait rien d'autre. Hein. Ouais. Voilà.
Et tu étais bon au foot ?
J'étais surtout très rapide.
Ah oui, ouais, parce que tu avais des jambes.
Voilà, donc... et puis increvable, comme disaient les autres. On me demandait d'ailleurs, lui, il a 3 poumons, alors c'est normal.
C'est normal. Tu respirais le bon air, là.
Qu'il était devant, derrière, et voilà.
Et en fait, tu n'as jamais quitté l'école parce que tu es devenu enseignant. Tu aimais tellement le sport que tu es devenu prof de sport, de PS.
Ah oui, en 6e... Parce que mes parents, mon père était maçon et puis il m'embauchait sur tous les chantiers. Hein. Donc les vacances, je savais que...
J'ai connu ça aussi. Hein.
Voilà, donc je savais que j'allais bosser, faire du béton et lui servir de manœuvre. Et en 6e, quand j'ai découvert le sport, quand on vient de la campagne, mais c'est fabuleux, quoi. Parce qu'on commence à voyager, on rencontre des gens. Et puis surtout, on sort un peu de son trou, ce que ne faisaient pas mes autres copains,
Mais tu étais donc à l'école toute ta vie, jusqu'à ta retraite.
J'ai été à l'école toute ma vie.
Toute ta vie.
Quand on se plaît à un endroit...
Alors, une petite question saugrenue, tu t'habilles à la Camif aussi ?
Je m'habillais pas à la Camif, mais je me meublais à la Camif.
Tu te meublais ? Alors, est-ce que tu as marié une prof également ?
Et j'ai marié également une prof du village voisin, mais qui, à l'époque, n'était pas prof du tout.
Qu'est-ce qu'elle enseignait, ta femme ?
Ma femme enseignait l'allemand.
Ah, Deutsch, ah ja, dann sprichst du gut Deutsch.
Ja,
c'est
ja,
gut. Kannst du, hein? C'est bien ça. Et alors, tu étais, c'était les années 70 où tu enseignais, hein?
Oui, voilà. Donc, j'ai commencé là, hein. Donc, ça remonte maintenant, hein. C'est vrai.
Mais les jeunes, ils aimaient déjà, dans ces années-là, à faire du sport? On était un peu des fainéants dans les années 70.
Ben, j'allais dire pas trop, parce qu'à la campagne, on savait grimper aux arbres, on savait pêcher, on savait courir, on faisait du vélo pour aller ici et là, on se retrouvait ici. J'allais dire, des activités physiques, il y en avait énormément. Surtout qu'à Midersheim, il y a le lac vert, comme on dit, où on se retrouvait au bord de l'étang, donc on passait des journées à nager.
C'est génial, ouais. Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais. Alors, tu parlais des garçons qui faisaient du foot comme toi, et les filles que tu leur enseignais aussi le sport, et elles étaient sportives, les filles, dans les années 70?
Alors, justement, quand je suis arrivé à Niederbronn, j'ai retrouvé un peu la même ambiance, la même culture, entre guillemets, que de mon village. Les garçons faisaient du foot et les filles faisaient rien.
Donc, rien, c'est-à-dire elles lisaient, elles tricotaient?
Elles tricotaient, elles lisaient, elles se promenaient, mais ouais. j'allais dire, s'occuper à la maison. Quoi, ah,
j'espère qu'elles n'entendent pas ça, parce qu'on va en prendre une, hein, c'est pas
Et justement, oui, quand je suis arrivé à Niederbronn, quand j'ai commencé à faire du sport avec les filles et les garçons ensemble, elles m'ont toutes sauté au cul.
Au cou. Donc tellement elles étaient joyeuses.
Tellement elles étaient heureuses de pouvoir pratiquer également. Donc le mercredi à l'UNSS, j'avais un tas de filles qui venaient et ça a commencé par des équipes de hand, des équipes de basket et ça, même du rugby. Et...
Ah bon, hein, waouh.
Oui, c'était un peu la révolution dans les chaumières.
Hein. Et pourquoi? Parce que les parents voyaient ça d'un mauvais œil, que leurs filles fassent du sport?
Bah, c'était nouveau que les filles se mettent à faire du sport. D'ailleurs, à l'époque, il y avait le mercredi, il y avait les cours de catéchisme.
Ah oui, ouais.
Et c'était en concurrence avec l'UNSS. Alors là, j'ai eu des mots avec monsieur le pasteur, monsieur le curé, qui m'ont dit, mais la religion, c'est beaucoup plus important.
Plus important que le sport.
Bah que ouais. Le sport qui sert à rien.
Bah oui. C'est ce que, en éducation nationale, c'est un peu pareil, non?
Oui, souvent, je l'ai encore entendu.
Avec les profs de français ou de maths, ils disaient que le sport, c'est du pipi de chat, quoi.
Voilà. Hier, j'ai fait une sortie avec les écoles primaires de Reishofen pour leur montrer la vie des batraciens. Parce qu'on fait une opération batracien, donc on les ramasse avec des filets. Donc les enfants étaient intéressés, je leur ai montré ça. Alors j'ai demandé à la maîtresse pourquoi vous avez choisi ce matin-là pour faire cette sortie. Elle a dit, ah bah ça remplace le sport.
Ah bah dis donc, ouais. Bah, donc ça t'a pas trop plu ça quand t'as dit ça.
Alors j'ai rigolé, j'ai dit bah oui. Elle a dit oui, le sport c'est moins important que d'apprendre à lire.
Vois, encore aujourd'hui, tu vois, ils pensent à ça. Tu vois. Alors on parlait à l'instant des années 70, c'est vrai que c'était les années cheveux longs, les idées courtes, pas de def, mise à fleurs. On va écouter une petite musiquette là, tu vas voir, Thomas va nous mettre quelque chose qui va te rappeler des bons souvenirs.
Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Tonnerre qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette.
Tu te souviens, Michel, de cette période, les cheveux longs? On avait tous des cheveux longs.
Antoine,
ouais, on avait des cheveux longs à l'époque. Hein, on était un peu des bobos, les amoureux de la terre.
Il y avait
déguisés comme ça, quoi.
Il y avait Woodstock, il y avait les hippies. C'était vraiment une contre-culture par rapport au progrès, soi-disant, de l'époque, qui allait nous apporter plein de choses, mais que des choses à consommer, que du matériel, quoi.
Ouais,
et là, il y avait déjà cette réflexion par rapport à cette société matérialiste.
Oui, c'est ça. Mais en parlant, ta mère t'envoyait aussi chez le coiffeur parce que tu avais des cheveux longs comme Antoine?
Eh oui, à la campagne, on n'avait pas trop les cheveux longs.
Ah ben moi, tu sais ce que ma mère, elle faisait quand j'allais chez le coiffeur, j'avais des cheveux très longs, elle appelait le coiffeur au téléphone, tu lui coupes les cheveux tout, ara, André Müller, tu vois. Donc, je rentre à la maison et je faisais la tronche, quoi, tu vois.
Bien sûr.
Et alors, aujourd'hui, Michel, tu as une toute autre vie, tu es à la retraite. Depuis bien longtemps, hein, parce qu'à l'éducation nationale, à 45 ans, on est à la retraite, je crois, non?
Oui et non. J'allais dire, ils nous ont bien rallongé quand même.
Je te taquine un peu.
Ils nous ont bien rallongé. Et en tant que prof de sport, après 60 ans, le matin, quand on se lève, on a un peu mal partout et ça a du mal à partir, même durant la journée. Quoi,
hein. Ah oui, oui. Ouais. Alors là, on va reposer un tout petit peu, encore une fois, les écoutilles. On va écouter quelque chose d'assez léger que tu aimes bien, Laurent Voulzy. On va te mettre une petite musique pour rebondir sur autre chose, d'accord?
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Alors tu penses que les géraniums peuvent changer le monde, Michel? Comme dit Voulouzy là.
Les géraniums et puis toutes nos fleurs sauvages, sachez qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Chaque mauvaise herbe fleurit
et donne
une fleur.
Ouais. Tu les connais toutes les fleurs? Tu en connais beaucoup?
J'allais dire, à un certain moment, on est obligé de toutes les connaître. Et la nature est drôlement bien faite parce qu'à chaque printemps, la leçon recommence. Et au bout de 70 ans, je peux dire qu'on connaît un peu...
Qu'est-ce qui fleurit aujourd'hui, là, au début du mois d'avril? Qu'est-ce qui fleurit dans les prairies? C'est quoi, les jonquilles, c'est fini? Les primes vertes?
Bah, les jonquilles, oui. Mais j'allais dire, les fleurs en ce moment, c'est les anémones, les primes vertes.
Les lupins, il y a des lupins ici?
Des lupins, non. Mais ouais. Le bois joli, ou le joli bois, selon les régions, ça fleurit rose, c'est des petites étoiles.
Ah oui, je vois très bien, c'est beau
qui
ça.
Qui poussent en forêt.
Mais nos pesticides n'ont pas abîmé tout ça, parce que quand je vois, par exemple, les prairies à côté en Slovénie, il y a des lupins, il y a des marguerites, c'est la nature est flamboyante, elle est magnifique. Quoi.
C'est évident que tous les produits qu'on met dans les prairies, c'est pour favoriser les graminées, donc le foin, et donc là, il n'y a plus... aucune fleur.
Ouais, mais pourquoi qu'en Slovénie ou en Bavière, on peut garder les fleurs et pas chez nous?
Je pense que c'est une politique un peu différente. Je pense qu'ils veulent préserver un peu ça pour l'avenir, alors que nous, déjà, les prairies, il y en a de moins en moins. Et là où il y en a encore, ils les retournent pour planter autre chose.
Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Et alors, un jour, je me souviens, tu as fait toc, toc, toc à la porte du parc des Vosges du Nord en leur disant... Il n'y a plus de hérons, vous coupez trop les arbres, les hérons ne peuvent plus nidifier, quoi.
Oui, c'est comme ça que ça a commencé un peu, avec le parc, quand j'ai trouvé une héronnière avec énormément de nids dont les arbres devaient être coupés par l'ONF, quoi. Et donc, j'ai réagi par rapport à ça. Et puis,
tu t'es attaché à un arbre en disant « vous ne coupez pas ».
Non, je ne me suis pas attaché à un arbre. Mais l'ingénieur là, des eaux et forêts m'a dit « mais... faites-moi quelques photos là, de ce que vous dites là, pour qu'on sache exactement de quoi on parle et pour prouver bien, moi, en haut lieu, que ça existe. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Et effectivement, il l'a fait et les arbres ont été sauvés.
Mais tu savais faire des photos à ce moment-là? Comment t'as fait pour faire des photos?
Je ne savais pas faire des photos non plus. J'avais rien comme matériel. Par contre, j'avais un copain du village d'à côté, un ingénieur en électronique, quand j'avais 20 ans. Qui m'a dit, on achète un petit boîtier et moi, je te bricole un dispositif pour le déclencher à distance, à 100 mètres.
Ça veut dire que
tu as
mis ton appareil sur un trépied.
Voilà.
Et c'était quoi comme appareil que tu as acheté?
Le Pentax, un Spotmatic à l'époque.
Avec un téléobjectif alors?
50 mm.
Ah bon? Et avec ça, tu peux photographier des oiseaux au lointain?
Non, il fallait être juste à côté, quoi. Donc, l'appareil, on l'a mis sur un trépied, on l'a bien camouflé.
Tu l'as mis derrière un rideau ou un truc comme ça?
Derrière des roseaux, derrière
pour
que l'oiseau s'habitue.
Ouais.
Et puis, à distance, quand
il venait... Comment il a fait, ce garçon, avec un... Il était avant-gardiste, non?
Oui, je pense. Bon, il a inventé plein de trucs.
Mais il aurait dû le faire profiter, il serait milliardaire aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il avait, cette prétention. Il a fait des cannes pour aveugles avec GPS et des choses comme
génial.
Ça.
Génial. Wow. Comment il s'appelle, ce monsieur?
Pierre Eckel.
Pierre Eckel, il habite aussi à Niederbronn, là-haut?
Non, il habite Ilkirch, mais il est originaire de Dindorf.
Ah ouais?
Ouais.
Et alors, tu t'es intéressé à ce moment-là à la photo, quand tu as vu que les photos plaisaient?
Oui.
Tu t'es dit, mais voilà, je vais...
Les résultats étaient fantastiques, parce que c'était un dispositif nouveau. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir les choses comme ça. Si proche, avec autant de netteté, voir les détails des plumes... Et donc, j'ai été sollicité par d'autres photographes qui m'ont dit, il faut continuer là-dedans. Et je me suis inscrit comme ça.
Après, tu as acheté du matériel, tout ça.
Voilà.
Et dans un club photo, tu es allé, tu dis à l'instant.
Voilà. Donc
Mais pourquoi
pour apprendre à faire la photo, parce que faire un document, c'est déjà pas si facile, mais après en faire une photo qui passe...
Ça va déclencher quand l'émotion t'appelle, c'est là qu'il faut appuyer, quoi.
Voilà, cadrer, composer, ça s'apprend, c'est aussi une école, et donc j'ai appris ça avec eux.
Et aujourd'hui, tu as fait pléthore de bouquins, des bouquins de nature, où tu as photographié toutes sortes d'oiseaux. Raconte-nous ce que tu as photographié. Comment tu fais pour photographier par toute saison, sous la neige, quand il pleut, quand il fait beau, moins beau? Raconte-nous un peu tout ça. Fais-nous rêver.
Pour photographier les oiseaux, d'abord, comme je disais avant, il faut d'abord les aimer. Ensuite, quand on commence à les aimer, on commence à s'y intéresser. Et donc, comme ça, j'ai appris tous les chants d'oiseaux. Donc, quand je vais dans la nature, ma femme me dit souvent, écoute, t'emmènes pas ton appareil photo parce que je veux faire plus que 50 mètres.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc,
mais tu sais les imiter, un chant d'oiseau?
Alors, je sais les imiter, je les reconnais. Donc...
Mais lesquels, par exemple, tu sais faire quoi, tu fais?
Le pivert, par exemple.
Fais voir comment il fait. Et c'est comme ça que tu l'appelles alors
et tu... On l'appelle et il vient.
C'est pas vrai.
Et il vient voir.
Et voilà. Tu mets donc les deux doigts dans la bouche, voilà, c'est génial. Et qu'est-ce
exemple,
que tu sais encore imiter, quoi, encore?
Tzitechto.
Ma mère me disait souvent ça. Tzitechto, c'est au printemps, ça?
Ça, c'est la maison charbonnière.
Ah, c'est beau, ça, ouais.
Voilà. Et puis...
C'est quoi, c'est un hibou?
Une chevêche, oui.
Ah, une chevêche. Ah, ouais.
Voilà, donc elles répondent, forcément... Et...
Mais c'est pas farouche, ça te connaît quand tu te balades dans la forêt. Bah, il te voit quand même. Un oiseau a peur, non?
Bah oui, mais j'allais dire, quand je fais mes photos, je me cache.
Ah oui, tu te caches.
Je me mets dans un affût complètement pour qu'on me voit pas.
Que tu installes.
Aucune silhouette, il y a juste le bout de l'appareil qui sort et puis j'attends.
Ouais, je me souviens, on avait fait un tournage avec toi là-haut et tu étais complètement enfermé dans des rideaux, je sais pas quoi. Et puis tu étais sur un petit tableau.
Toile de camouflage.
Et tu attendais. Et là, c'était l'oiseau de l'eau?
Oui, le merle d'eau, le cincle plongeur.
Le cincle, c'est magnifique ça. Il plonge pour chercher quoi? Des algues?
Alors, il nage, il vole sous l'eau, c'est-à-dire il écarte les ailes contre le courant et qui le fait descendre. Et donc, il se nourrit au fond. C'est le seul oiseau qui sait faire ça. Donc, il se nourrit au fond.
Avec des gamards ou qu'est-ce qu'il prend?
Il prend des gamards, des comment on appelle ça?
Des insectes?
Des porte-bois.
Des porte-bois, oui.
Oui, les porte-bois. Et puis, dès qu'il ferme les ailes, dès qu'il arrête de voler, il remonte comme un bouchon.
Comme un bouchon. Après, il se les sèche comme un cormoran?
Même pas. Le cormoran est obligé de se les sécher. Mais lui repart aussi
sec. C'est quand même un
drôle
d'oiseau, le cormoran, non? Il nous vide toutes les rivières, quand même.
Oui, bon, j'allais dire, c'est aussi vite dit. Hein, j'allais dire, les pêcheurs, par exemple, chez nous, ont introduit des silures qui... mange absolument tout.
Oui, c'est vrai. C'est un
il vide
horrible.
Les étangs. Il n'y a même plus un oiseau qui peut se balader à la surface sans se faire manger.
Oui.
Et on accuse un peu les cormorans.
Oui, oui,
et les cormorans,
ils mangent quand même les truitelles, ils mangent les petites...
Ah, c'est sûr.
Ils mangent tout, quoi.
Mais d'un autre côté, le cormoran, tant qu'il est là, c'est qu'il y a du poisson. Quand il n'y a plus de poisson, il ne vient plus.
Oui, mais moi qui suis un pêcheur à la mouche, un pêcheur, je vois bien que le cormoran, il vide souvent les rivières. Hein.
Ah,
il
n'y
a plus grand-chose. Hein.
Oui, oui.
10 cormorans, tu as vu ce qu'ils mangent? Quasiment leur poids en poisson. Hein. 600, 700 grammes par jour, hein.
Voilà.
T'imagines. Et ils n'achètent pas de carte de pêche. Hein,
Non, c'est gratos.
Alors, tu peux passer des heures comme ça à faire un shooting, hein, à photographier.
J'allais dire, quand on est à l'affût pendant 3 heures, souvent en hiver.
3 heures, tu peux attendre?
Quand on est en hiver, quand il fait du -5, -6, qu'il n'y a pas de chauffage. Mais j'allais dire, la récompense, c'est quand on a quelque chose à voir, à trouver. On ne photographie pas systématiquement.
Oui, c'est ça. Et parle-moi de tes grandes récompenses. Et tes photos vont où? Parce que maintenant, tu travailles pour des grands magazines internationaux. Parce que raconte-moi l'histoire de cette petite grenouille qui s'est fait happer par une fleur carnivore, par une plante carnivore. Raconte-moi ça. Comment tu as fait ça?
Alors, j'étais en train de faire l'inventaire des papillons des Vosges du Nord.
Mais t'en as fait un livre, d'ailleurs.
Dans une tourbière où il y avait des droseras. Des droseras, c'est des plantes carnivores.
C'est celles qui mangent les insectes, les mouches, là, qui
voilà,
se referment.
Voilà, les moustiques et
c'est d'ailleurs une
libellules.
Belle plante, hein. C'est une
très, très belle plante, mais grâce à ses feuilles, avec de la glu, donc elle les attrape. Et il y a un petit papillon qui pond des œufs sur cette drosera.
Ouais.
et la chenille mange la drosera. C'est le système à l'envers.
Mais comment elle rentre là-dedans, la chenille?
Le papillon a des pattes comme sur des échasses. Ah, c'est-à-dire qu'il a des pattes tellement longues qu'il se pose sur la fleur sans la toucher, grâce à ses petites pattes, pond son œuf et s'envole. Et s'il reste accroché, il perd une patte. Bon, c'est pas grave. Ça repousse peut-être pas, je sais pas. Mais en tous les cas, la chenille, elle mange la plante de l'intérieur.
Ah ouais, waouh, c'est marrant.
Et ça redonne après un papillon à nouveau. Et pendant ce temps, quand je faisais ces photos, c'était la sortie des grenouilles rousses qui sortaient de la tourbière sous forme de... C'était plus des têtards, mais des tout petites grenouilles.
Après le tétard, quoi, c'est tout petit, quoi, c'est minuscule.
Et il y en avait partout.
Ouais.
Et en me retournant, j'ai vu cette petite grenouille qui se débattait parce qu'elle était accrochée par le dos sur une drosera. Donc, elle s'est fait manger. Et donc, j'ai juste tourné le boîtier pour photographier ça.
Et là, c'est la photo de ta carrière, quoi.
Voilà. Donc, c'est celle qui a fait le tour du monde.
Oh,
qui a fait
génial.
La tournée de tous les magazines.
Wow. Et là, on est fiers, non?
Ouais, ça fait plaisir, quoi.
Ah, c'est bien. Et puis, et le banquier aussi se réjouit, se frotte les mains, je pense.
Bah, le banquier, bah oui, parce que...
L'échec arrivé, quoi.
Voilà. Très bien, donc...
Mais j'ai vu, je vois de temps en temps des photos dans les magazines de montagne ou autres, où je vois ton nom, j'ai dit, putain, il est quand même connu, ce monsieur.
Oui, j'ai fait pas mal de couvertures de livres, de magazines.
C'est génial.
Et j'allais dire, c'est le côté vraiment, réconfortant et qui donne un peu envie de continuer.
Et alors, avec l'argent, tu as pu t'acheter des carambars?
Voilà, donc quand on voit le prix des optiques,
c'est vrai.
Ma femme me disait, c'est cher. Hein. Alors je disais, oui, mais tu as vu, là, il y a des chèques qui sont rentrés.
Ouais,
donc c'était...
Et aujourd'hui, tu as des téléobjectifs, tu as beaucoup de matériel, photo?
Ben, j'ai du matériel, mais pas les tout gros objectifs, etc. Ouais. Moi, j'aime
bien. C'est lourd aussi, hein, pour te balader.
Oui, je me balade avec des petits objectifs, finalement, parce que je passe mon temps non pas à leur courir derrière, mais à les attendre qui viennent vers moi. Et alors, à ce moment-là, on a un comportement qui est déjà beaucoup plus naturel. Hein, ils ne sont pas en train de partir. Et ils s'approchent beaucoup plus près. Et à un certain moment, on est même accepté. Hein, quand je vois les chevreuils, des fois, ils sont à 3 mètres de moi. Quoi,
Parce qu'ils te sentent quand même. Ils sentent que...
Ben, ils me sentent.
Mais ils te connaissent peut-être.
Oui, après, moi, j'ai mes petits trucs pour leur montrer que...
Que tu es là, tu te mets à contre-sens.
Que je ne leur en veux pas. Quoi.
Ah oui, d'accord.
Et que je me fais accepter. Quoi.
Ouais. Et que tu les publies. Parce que là, tu as fait un beau livre. Hein. C'est magnifique ce que vous avez fait. Vous étiez plusieurs photographes dans ce
11
bouquin.
11 photographes, oui.
Combien? 11?
Oui, je suis pas un président d'une petite association nature du côté de Niederbronn. Et il y a quelques photographes, et à un certain moment, on s'est dit, allez, on a des belles images, on va publier ça. Et puis, effectivement...
Comment il s'appelle, ce livre? On peut encore le trouver en librairie, celui-là?
Eh ben non.
Et t'as pas envie de le ressortir?
On n'a pas envie. C'est un peu compliqué, parce que en 3 semaines, on avait absolument tout vendu. L'éditeur a dit, on refait. Et puis finalement, consensus des 11 photographes, ils avaient pu... La majorité a dit non, on n'a plus envie de se relancer là-dedans.
Parce que c'est un gros travail quand même de sortir un livre. Hein.
Ah ben le gros travail, c'est moi qui l'ai eu.
C'est toi qui l'as fait. T'as passé quoi, un an à écrire?
Un an à tout faire, maquette, etc.
C'est du travail,
Et puis ils m'ont dit non, on en refait un autre. J'ai dit oui, mais refaire un autre...
Tu aurais suffisamment d'images, toi, pour faire un livre.
Oui, et puis il faut l'aval de l'épouse aussi. Hein,
oui, c'est ça. Bah oui, parce que tu passes du temps devant l'ordinateur écrire, et des jours et des nuits,
Et puis si on s'arrête pendant 8 jours, après il faut reprendre le fil, c'est pas toujours évident. Donc il faut
Mais la récompense est belle, quand même.
Ah oui.
Parce qu'un livre d'images comme celui-là, quand mon petit-fils Augustin vient à la maison, ben, il l'a dans les mains, et il regarde tes photos, il les scrute.
Il regarde les détails.
Et l'autre jour, il me dit, papy, t'as vu, il a une charbonnière, une maison charbonnière. Je dis, waouh, quand même, tu vois, il a retenu des choses grâce à tes images aussi.
Oui.
Vois. C'est ça, c'est la suite, tu vois, pour les petits-enfants, de leur montrer la beauté du monde, la beauté des paysages.
Ouais.
Écoute, je crois que notre émission se termine tout doucement. On a beaucoup papoté. C'était très intéressant de te recevoir.
Merci à vous.
Ribobelle de... Regarde, c'est une forêt de micros. Hein. T'as vu comme c'est beau chez nous. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on
merci
se reverra
aussi
bientôt pour une autre émission radio. En tout cas, Thomas, on va mettre le petit générique de fin. Merci d'être venu, Michel. À bientôt. Porte-toi
salut,
bien.
André.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes.